Afrique, les infos à Washington.
Midi à Dakar, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Alors, on commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, procès du leader du mouvement islamique du Nigeria, Cheikh Ibrahim Zakzaki, devant une haute cour fédérale à Kaduna, dans le nord du pays. Le leader religieux chiite est accusé d'avoir tenté d'assassiner le chef des forces armées nigérianes, Tukur Baratay. Le point avec notre correspondant sur place, Gilbert Tamba.
Tout a commencé le 12 décembre 2015, alors que le chef d'état-major des forces armées nigériennes, Tukur Baratay, s'est rendu à une cérémonie de recrutement de soldats dans une garnison des Zaria. En route, son convoi est bloqué par une procession du mouvement islamique du Nigeria. Selon l'armée, des membres de ce mouvement chiite ont monté des barricades, puis ont commencé à jeter des pierres contre le convoi, et la garde rapprochée du général a riposté en ouvrant le feu. Le bilan de cette confrontation, 7 personnes tuées parmi les membres du mouvement islamique du Nigeria. Le chef religieux Ibrahim Zakzaki et son mouvement contestent cette version des faits. Par la suite, le leader du mouvement islamique du Nigeria a été arrêté et se trouve depuis en détention dans une prison à Abuja, la capitale fédérale. Cheikh Ibrahim Zakzaki sera jugé en compagnie de sa femme et des autres dirigeants de son mouvement. Le groupe a dans un communiqué condamné le procès qu'il considère comme une parodie de justice. Dans les années 80 et 90, Ibrahim Zakzaki a déjà été incarcéré plusieurs fois. Il dirige une organisation chiite minoritaire dans un pays où la majorité des musulmans sont sunnites. Lors d'une manifestation à Kaduna au nord du pays, l'armée nigériane avait donné l'assaut contre les militants de ce groupe chiite, tuant selon le gouvernement quelques 300 membres du mouvement, mais le groupe parle de plus d'un millier de ses partisans tués par l'armée. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Avec vous, Henri Francisque, donc, au Cameroun voisin, un plan d'assistance humanitaire d'urgence de plus de 12 milliards de dollars pour les régions anglophones en proie à des violences meurtrières depuis 2016 a été lancé mercredi par le Premier ministre camerounais. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Le gouvernement camerounais se donne 18 mois pour répondre aux besoins humanitaires de plus de 105 000 personnes, des déplacés internes, des victimes d'exactions dans les localités du nord et du sud-ouest, les communautés hautes et les Camerounais réfugiés dans 4 États au Nigeria suite à la crise anglophone. Pendant les 3 mois à venir, pas moins de 10 milliards de francs CFA vont être déboursés pour certaines actions dites urgentes du plan, à savoir les équipements de première nécessité, les denrées alimentaires, les logements, de l'eau ou encore le renforcement de la sécurité et les visites de réconfort aux réfugiés camerounais du Nigeria. Plus d'une dizaine d'administrations du Cameroun, en plus des organismes internationaux, seront mobilisés pour ce plan d'assistance humanitaire d'urgence sous la coordination du ministre anglophone Paul Atanganji. En mai dernier, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires, OCHA, avait manifesté l'intention de coordonner un plan de réponse d'urgence en zone anglophone, en collaboration avec les partenaires humanitaires internationaux. Le Cameroun vient de décliner l'offre onusienne, préférant plutôt un plan dirigé par les Camerounais eux-mêmes. Yaoundé, Emmanuel Julunta, VOA Afrique.
En RDC, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont réunis en congrès à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement mercredi. Obé Minaku, le président de la Chambre basse, a annoncé dans son discours que le président Joseph Kabila devrait s'adresser à la nation dans les prochains jours. De nombreux projets de loi doivent être examinés au cours de la session parlementaire en cours. Les précisions de notre envoyé spécial à Kinshasa, John Lyndon.
Le projet de loi portant statut des anciens présidents de la République est celui dont on parle le plus ici. Il est censé donner une immunité aux anciens présidents élus. Le projet en question insiste sur élus, et lorsqu'on sait que jusqu'ici la RDC n'a connu que 4 présidents et que 3 sont morts, on devine aisément que le premier bénéficiaire de ce projet de loi, s'il est adopté et promulgué, ne sera bien sûr que le président Joseph Kabila. Le président Kabila qui doit d'ailleurs s'adresser à la nation dans les prochains jours. Aucune indication a été donné sur la date de cette adresse. On sait toutefois que ce sera devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Parmi les autres projets de loi qui seront débattus par les législateurs congolais, celui portant statut particulier du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits humains. On parle aussi ici du remplacement de certains membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dont le rôle sera crucial lors des élections à venir, y compris la présidentielle de décembre prochain. Et à ce propos, Aubin Minaku a exhorté les Congolais à tout faire pour que ce scrutin se déroule dans la paix. John Lyndon, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burundi, la journée mondiale des réfugiés mercredi a fait l'objet de célébrations dans les camps de réfugiés dans le pays, notamment celui de Kavumu en province de Cankuzo dans l'est du pays. Un des quatre camps où l'on recense près de 20 000 réfugiés en provenance des États de la région, surtout des Congolais de la RDC. Le président Pierre Nkurunziza exhorte les réfugiés burundais à rentrer chez eux car la paix est totale d'après lui, ce que démentent les opposants au régime de Bujumbura. Le point avec le correspondant de VOA Afrique sur place, Christophe Nkurunziza.
Journée mondiale des réfugiés célébrée dans le camp de Kavumu en province de Cankuzo à l'est du Burundi, un des quatre camps qui compte plus de 16 800 réfugiés en provenance des pays de la région dont la majorité sont des Congolais. Des réfugiés au Burundi qui vivent difficilement, sans nourriture suffisante, sans soins de santé et où les médicaments deviennent une denrée rare. Mais le HCR indique que le problème est dû au financement qui se raréfie à cause de la crise que le pays traverse depuis 3 ans, crise qui est née du troisième mandat de l'actuel président burundais qui a indiqué dernièrement qu'il ne va plus se représenter après les élections 2020 et qui s'adonnera corps et âme pour soutenir celui qui sera élu. Pour les réfugiés et pour l'essentiel des Burundais, lier les deux bouts du mois devient impossible. Chaque mois, tout réfugié congolais devait percevoir sous forme d'aide 4000 francs burundais, soit l'équivalent de moins de 3 dollars américains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le HCR indique que sur 30 millions de dollars américains que les donateurs avaient accepté de donner, seuls 10 millions et demi de là ont été débloqués. Tous les réfugiés congolais demandent aux autorités et aux bienfaiteurs de trouver une solution à ce problème crucial. Signalons que plus de 300 000 réfugiés burundais vivent également dans les pays de la communauté est-africaine, dont la majorité vit en Tanzanie. Les Burundis traversent une crise socio-économique et politique sérieuse après le coup d'État manqué du 13 mai 2015 qui a poussé des milliers de Burundais à quitter le pays. Le président Pierre Nkurunziza appelle les réfugiés burundais à rentrer au pays car la paix est totale d'après lui, ce que démentent les opposants au régime de Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant. Le président américain Donald Trump a finalement signé hier un décret mettant fin à la séparation des familles de migrants qui ont franchi illégalement la frontière avec le Mexique. Les détails avec Bagassi Koura.
Cela me tient particulièrement à cœur. Nous n'aimons pas voir des familles séparées, a affirmé Donald Trump en signant le décret dans le bureau ovale. Quelques heures plus tôt, à la surprise générale, le président américain avait annoncé qu'il allait mettre fin à cette pratique qui lui a valu beaucoup de critiques, y compris au sein de son propre camp. Nous allons avoir des frontières très fortes, mais nous allons garder les familles ensemble, a encore dit le président Trump, qui a lui-même décrété début mai une tolérance zéro sur l'immigration illégale qui s'est traduite par la séparation des familles. Plus de 2300 enfants ont été séparés de leurs parents après leur arrestation à la frontière sud. Je pense que toute personne avec un cœur réagirait de la même manière, a-t-il ajouté, soulignant que sa fille Ivanka et sa femme Melania étaient montées au créneau sur le même sujet.
Crise migratoire toujours, l'Union européenne envisage la création dans des pays tiers de plateformes régionales de débarquement de migrants secourus en mer. Mais il ne s'agit pas de créer des Guantanamo pour migrants, a assuré ce jeudi à Bruxelles le commissaire européen aux migrations Dimitri Avramopoulos. Selon lui, la Commission de l'Union européenne est en discussion avec l'ONU et l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, sur comment un dispositif de débarquement régional pourrait fonctionner. Monsieur Avramopoulos souligne que la création hors de l'Union européenne du centre de débarquement de migrants secourus en mer enverrait le message qu'embarquer dans un bateau ne signifie pas un voyage gratuit vers l'Union européenne. Et pour terminer, la coupe du monde de football en Russie, le match Danemark-Australie est en cours à Samara. À 15h, il y aura le match France-Pérou. Et à 18h, ce sera la Croatie contre l'Argentine. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.